Est-ce que vous allez bien? Le sujet de prédication pour aujourd'hui part sur une question. Pourquoi est-ce que les jeunes quittent l'église? Une étude aux États-Unis a démontré que, il y a plus ou moins 20 ans d'ici, les jeunes commençaient à quitter l'église alors qu'ils entraient dans les universités. Et après s'être mariés, après avoir eu des enfants, ils revenaient dans l'église et se redonnaient à Dieu. On avait donc une démographie des églises qui était avec beaucoup d'enfants, beaucoup de parents, mais peu de jeunes gens. Je pense que cette étude aux États-Unis s'est retrouvée en Belgique, où on a vu un peu la même chose. Mais une étude encore plus récente dans les églises baptistes, on montre que les jeunes ont tendance à ne même plus revenir dans l'église, même après avoir eu des enfants. On pourrait paniquer un petit peu et dire, spiritualiser, dire que la jeunesse d'aujourd'hui ne cherche pas Dieu. Mais on pourrait aussi se poser la question, est-ce qu'on n'obtient pas les résultats qui sont en relation avec notre modèle d'église? Est-ce qu'il est possible que certains systèmes d'église vaccinent des personnes à l'évangile? Qu'est-ce que j'entends par vacciner? Eh bien, imaginons que, est-ce qu'on peut concevoir que certains jeunes qui ont grandi dans l'église, lorsqu'ils réentendent parler de cet évangile-là, lorsqu'ils réentendent parler de Dieu, ils ont une réaction totalement fermée et se disent « ça, c'est pas pour moi ». Alors, toutes les religions sont basées sur le fait qu'on partage le monde qui est dangereux. Et à un moment donné ou à un autre, on expérimente le danger de ce monde. Et dans la peur de ce monde, le désir naturel de l'homme, c'est de pouvoir contrôler les choses pour se protéger. Pour se protéger, on veut contrôler le monde autour de nous. Le problème, c'est que pour que je puisse exercer un contrôle sur mon environnement, cela rend le monde encore plus dangereux d'une certaine façon. Imaginons si je vais aller chercher du pétrole pour contrôler mon environnement, eh bien je dois aller le chercher chez quelqu'un, je dois maintenir la sécurité dans cette zone-là, et je peux même créer plus de chaos en essayant de amener moins de chaos chez moi. Je dois aller rechercher mes ressources quelque part. On appelle ça le cercle, c'est un peu un cercle vicieux, il y a le danger du monde, il y a la peur qui vient, ma réponse c'est le contrôle, et on repart dans ce danger, cette peur, ce contrôle, et on repart dans ce danger, cette peur, ce contrôle. Toutes les religions humaines sont là pour gagner le contrôle sur le monde qui fait peur. Et même parfois ça inclut des formes dans notre christianisme à nous. Dans nos églises, une façon de contrôler Dieu est souvent déclinée en quatre catégories que j'aimerais bien voir avec vous aujourd'hui. Ces quatre catégories sont parfois totalement fausses, parfois un peu vraies. Mais ce qui est certain, c'est que parfois, ça empêche nos jeunes d'être satisfaits dans leur foi. Alors si vous êtes un petit peu déçus parce que je vais parler que pour les jeunes, ne vous inquiétez pas. Je pense que ces quatre façons de voir la foi, eh bien on va également s'y retrouver à des saisons de notre vie. Amen. La vie en dessous de Dieu. Parfois, il y a des gens qui voient leur vie, la façon dont ils voient le monde, c'est leur vie en dessous du Dieu, en dessous de Dieu. Alors, je contrôle Dieu à travers une vie morale ou à travers des rituels. Je prie à tel ou tel saint, je prie à telle ou telle personne. Si tu fais cela, Dieu te bénira. Alors écoute, je vais jeter une pièce de monnaie dans la mare, comme ça je vais trouver un amoureux. Je vais faire attention de ne pas passer sous une échelle, parce que sinon, il y a un malheur qui va m'arriver. Et on pourrait se dire, si tu as une vie sainte, si tu te gardes avant le mariage, si tu vas à l'église tous les dimanches, eh bien, tu n'auras aucun problème. Et cette vue, ça nous transforme en grand marionnettiste de Dieu, où on le contrôle de notre bas, ce Dieu qui est en haut, et à travers le contrôle de Dieu, on pense contrôler le monde. Le peuple d'Israël, on peut le voir, avait ce désir totalement faux de vouloir contrôler Dieu. Je le dis souvent, mais pourquoi est-ce que Israël avait une représentation de Dieu en fumée et en feu? Dieu a choisi de se présenter devant le peuple d'Israël en fumée et en feu, essayer de sculpter de la fumée et du feu. C'est pas facile, hein. De la fumée et du feu, il faudrait une caméra. Il faudrait prendre une photo, mais c'est très difficile à sculpter. Alors si je ne peux pas sculpter Dieu, je ne peux pas faire de statue à son effigie, je ne peux pas aller apporter des choses devant lui. Dieu va même plus loin dans sa relation avec Israël. Il dit, ces sacrifices, je vous les demande, parce que si je ne vous les demandais pas, je sais que vous les feriez à d'autres dieux. Donc Dieu comprend ce désir de l'homme de devoir se sentir sécurisé, mais le piège c'est que le peuple d'Israël cherchait tout le temps à contrôler Dieu, à entrer dans une espèce de relation commerciale avec Dieu. C'est pour ça que quand le peuple de Dieu reçoit la loi, au lieu de dire devant Moïse, qui descend de la montagne, on ne va pas y arriver, ils ont dit d'accord, on sait comment faire maintenant, on se rappelle les dieux égyptiens, si je vais servir... une pierre au clair de lune pour le dieu Behemoth, eh bien j'aurai une année de fertilité. Eh bien maintenant mon dieu d'Israël, il m'a montré comment moi je peux le contrôler. Je n'ai qu'à faire ça, 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 ça et ça. Mais le problème c'est que Dieu, c'était pas du tout la relation que Dieu cherchait avec l'homme. Si la loi était présente, c'était pour bien démontrer notre inhabilité à pouvoir atteindre le statut de Dieu. Au lieu de regarder à Dieu et à qui il est, les Israélites ont regardé à eux et comment eux pouvaient accomplir la loi. S'il y a bien une chose dans la révélation que Christ nous apporte, c'est que lorsqu'on regarde à lui, ça va, on y arrive, parce qu'il est assez bon, il est assez puissant, il est assez plein de patience, il est assez rempli de grâce. Mais quand on regarde à nous, on voit nos manquements. Un prédicateur américain disait, la loi, c'est regarder à moi, la grâce, c'est regarder à Dieu. Parfois, nous enseignons à nos jeunes qu'à travers une vie morale ou des actes de superstition, nous pouvons arriver à devenir un marionnettiste de Dieu. Et si nous enseignons cela aux jeunes, nous préparons leur échec car une des deux choses suivantes va arriver. Soit ils sont très disciplinés et arrivent à pratiquer une vie morale et comme je viens d'expliquer, Dieu est très célèbre pour ne pas se laisser contrôler. Alors peut-être je ne vais pas entrer dans l'école où je voulais entrer, ma copine casse avec moi, la vie est toujours dure. Pourtant j'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai fait ce que Dieu me demandait de faire et pourtant ma vie elle est pas parfaite. Pourtant il y a encore du danger dans ce monde. La conclusion qui se passe dans la tête de gens qui ont fait cette démarche, c'est que le christianisme est une arnaque. Ou alors une deuxième solution, on n'arrive pas à suivre toutes les règles. Et on se dit, je ne peux pas devenir un chrétien, car je ne peux pas respecter les règles. Sans aller dans la révélation de qui est cette personne, moi j'ai grandi avec une personne qui a eu très dur avec sa foi. Elle vivait selon ce modèle-là de règles, mais elle s'est sentie totalement inapte à le suivre. Moi j'ai vu Dieu la toucher pendant des camps chrétiens, j'ai vu une œuvre de Dieu dans son cœur, mais il y avait toujours cette pensée qu'elle n'était pas apte à suivre son christianisme. Après des années, elle a quitté l'église, elle a quitté l'église, elle a quitté sa foi, et elle s'est même convertie à une autre religion, après avoir vécu des choses avec Jésus. Alors moi j'ai été témoin de ça, un peu, d'une certaine distance, et la question vient dans ma tête, comment est-ce que quelqu'un qui a vécu des choses aussi puissantes avec Dieu, peut faire un changement total, à 180 degrés, aller dans une autre direction? Eh bien, c'est assez facile à répondre quand on réfléchit à ça. Elle a trouvé une religion où elle se sentait apte à suivre les règles. Elle se sentait apte à se sentir digne. Alors, pour quelqu'un qui a grandi dans l'église, où la base de notre christianisme, c'est le fait qu'on n'est pas apte, je pense qu'il y a un problème. Je ne suis pas du tout là pour accuser, mais je veux juste révéler des choses par rapport à notre façon dont nous vivons notre foi, et pourquoi c'est important de garder Christ au centre. Donc voilà la première, Dieu au-dessus de moi que j'essaie de contrôler à travers une vie morale ou à travers mes actes. Deuxième option, celle de préférer notre monde, c'est la vie au-dessus de Dieu. Donc moi je me mets à la place de Dieu et Dieu en dessous de moi. C'est bien sûr la vision très connue des athées. C'est ce qu'enseigne, cette vision-là va nous enseigner que la science nous permet de contrôler le monde. Alors on peut couper Dieu de l'équation. On prend le contrôle du monde à travers la science et la technologie, par exemple. La forme de la plus extrême de cela, c'est l'athéisme, bien sûr, mais il y a une version chrétienne de cela. On va dire quelque chose comme ceci. Tu sais, la raison que ta vie ne va pas bien, c'est parce que tu ne prends pas tes repères dans la Bible. La Bible peut te donner le contrôle sur le monde. Et parfois, nous enseignons aux gens d'avoir une relation avec la Bible plutôt que d'avoir une relation avec le Dieu de la Bible. Jean 5, Jésus s'adresse aux pharisiens. Si vous cherchez les Écritures pour trouver la vie et vous ne me trouvez pas. C'est le problème des pharisiens. J'ai suivi les instructions de la Bible et pourtant les choses vont toujours mal. Pourtant ma vie n'est pas contrôlée, elle fait toujours peur. Ceci nous remet grandement en question. Que se passe-t-il? Alors ça, il y en a qui ont donné un nom à cette forme de vision de la foi. Ils appellent ça du déisme chrétien. C'est le fait de garder Dieu très loin de nous, mais d'avoir une relation juste avec la Bible. Mais on sait que c'est la révélation que l'Esprit nous apporte qui rend cette parole vivante. Dieu, la parole s'est incarnée en Jésus, et elle a été parlée, et la puissance est sortie de cette parole, c'est le Saint-Esprit. Si quelqu'un lit la Bible sans avoir de relation avec Dieu, ces textes peuvent paraître très morts, ces textes peuvent paraître très vides. Bien sûr, l'Esprit accompagne sa parole. Quand quelqu'un lit la parole, il y a l'Esprit qui fait une œuvre dans le cœur. Mais quelqu'un qui est totalement froid, mort spirituellement, s'il lit la parole, il peut en sortir des théologies totalement humaines, voire démoniaques. Pourquoi cela? C'est parce que c'est la révélation de l'Esprit dans nos vies, c'est notre relation vivante avec Dieu qui amène la lumière quand nous lisons la Bible, quand nous lisons la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cette parole nous renvoie vers Jésus qui vit dans nos cœurs. Alors lorsqu'on lit le Jésus écrit avec le Jésus qui vit en nous, il y a une vibration qui se passe. Il y a tout qui s'allume en nous et tout qui commence à trembler. Et alors la parole prend vie et la parole prend forme dans nos cœurs. Dieu a dit dans une prophétie, « Moi je remplacerai vos cœurs de pierre par des cœurs de chair. » Amen. Ce n'est pas une relation de peur qu'on a avec Dieu, pas pour contrôler le monde. Mais c'est pour avoir une révélation du Dieu vivant sur comment vivre notre foi. Donc voilà Dieu au-dessus de ma vie, Dieu en dessous de ma vie. Puis il y a aussi Dieu au service de ma vie. L'essence de la vie sont des désirs non satisfaits. Et toutes les choses du monde sont là pour satisfaire mes besoins. Alors peut-être il y a 40 ans d'ici, c'était pas vraiment la vision du monde. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens dans notre société voit la vie comme un grand parc d'attraction pour satisfaire mes besoins. La vie est là pour satisfaire mes besoins non satisfaits. Et c'est vrai que Dieu satisfait nos besoins, ça c'est une vérité biblique. Le problème c'est que si cette vue va trop loin, qu'on prend n'importe quel point de la parole, de notre doctrine de foi, et qu'on l'agrandit tel un ballon, tellement fort qu'on ne voit plus le reste, que même la parole de Dieu est effacée. Alors on appelle ça une hérésie. Ou alors quand on diminue ce ballon tellement fort qu'en fait on enlève le texte, on appelle ça aussi une hérésie. On appelle ça une erreur doctrinale. Une erreur doctrinale très célèbre, c'est ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. C'est prendre ce fait que ce Dieu pourvoit à mes besoins et le mettre tellement grand que ça enlève toute autre responsabilité du chrétien de vivre digne de son appel, de vivre dans le service d'accomplir le travail de Dieu, etc., etc. Alors beaucoup de jeunes, parfois vieux, voient Dieu comme soit un thérapeute, soit un majordome. Tu as besoin de quelque chose, demande à Dieu. Ça transforme Dieu en machine à snack divine. Alors, lorsque les gens n'ont pas des choses de Dieu, alors pourquoi est-ce que je te suivrai, Seigneur? Le fils prodigue, qui ne veut pas de relation avec son père, mais il veut l'héritage. Dans l'histoire du fils prodigue, ce fils qui va voir son père et qui lui dit, écoute père, donne-moi tout ce qui m'appartient, la moitié de tout ce que tu as, et moi je m'en vais. Le fils prodigue ne veut pas de relation avec le père, il veut juste que le père lui apporte. Et ça, parfois, nous entrons dans cette forme de relation-là avec Dieu. Évangile de la prospérité, comme je l'avais dit parfois, ça en devient une extrémité. Et pour réparer cela, on dit parfois aux gens, aux jeunes, écoute, c'est pas Dieu au service de ta vie, c'est ta vie au service de Dieu. On dit, si tu veux contrôler le monde, tu dois faire plus de choses pour Dieu. Le plus que tu arrives à faire pour Dieu, au mieux tu peux te sentir à propos de toi. Ça, c'est très fort chez les enfants de missionnaires ou chez les enfants de pasteurs. Comment est-ce que tu évalues ta valeur devant Dieu? Bien, écoute, si tu, ta vie, c'est pas Dieu au service de ta vie, c'est toi qui dois tout donner à Dieu, c'est toi qui dois vivre pour lui à 100%. Et alors, on voit Dieu comme un grand général des armées. Et le moment où on a une décision à prendre et où Dieu ne répond pas, on panique. Est-ce que je dois vraiment être avec cette personne? Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Ça fait 3 mois que je prie et je n'ai pas de réponse de ta part. Je ne sais pas quoi faire. Dieu n'est pas toujours un général. Dieu ne vient pas toujours comme celui qui va nous donner des ordres. Il nous a donné une liberté d'action, une liberté de choix sur le sentier du salut. Nous sommes jugés par la loi de la liberté. C'est avec cette liberté, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Voilà comment Dieu nous juge. Donc il y a bien ce sentiment de liberté-là. Une question qu'on peut poser pour voir si on vit dans ce modèle-là, c'est, à ton avis, comment est-ce que Dieu te voit dans ton péché? Souvent, la réponse des jeunes, c'est « Oh, Dieu est déçu, Dieu est déçu par rapport avec les luttes, avec ça ou ça. » Mais, je vais peut-être vous choquer, mais au milieu de notre péché, au milieu de notre non-activité, eh bien, Dieu, il nous aime. C'est excellent de servir Dieu, mais c'est pas le centre de nos vies. À nouveau, je vais peut-être vous choquer. L'activisme chrétien chez les jeunes, c'est très fort, car ils cherchent leur place, et quand ils n'ont plus d'énergie, ils sortent de l'église. La vie en dessous de Dieu, la vie au-dessus de Dieu, Dieu au service de ma vie au service de Dieu. Le grand frère dans l'histoire du fils prodigue est victime de l'activisme chrétien. Je veux bien qu'on prenne le texte dans Luc 15. À partir du verset 11. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Leur père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné. Et il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs garder les porcs. Il aurait bien voulu nourrir des déchets que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se met à réfléchir et dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Ici, moi, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit au père, « Voici tant d'années que je suis à ton service, à tes ordres, et jamais tu n'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé ?»« Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici mort est revenu à la vie, il était perdu, et il a été retrouvé. » Ce que le père dit au fils, au grand frère, c'est ton obéissance, ton travail pour moi. C'était magnifique, c'était bien, tu as toujours été avec moi. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est pas ton travail, mais c'est le fait que tu as demeuré en moi, que tu es resté avec moi. L'essence de la vie chrétienne, c'est pas la vie en dessous de Dieu. C'est pas la vie au-dessus de Dieu. C'est pas Dieu au service de ma vie ou ma vie au service de Dieu. L'essence de la vie chrétienne, c'est la vie avec Dieu. La différence est que tous les autres vues ont un but extérieur, mais ce que Dieu veut, c'est être présent dans la vie de façon constante, de façon journalière. Depuis environ 3 mois, je suis dans l'habitude de passer des temps vraiment recherchés avec Dieu. Et de ce fait-là est sortie vraiment une intimité profonde que je ressens avec lui. Ou quand je m'approche de sa présence, je sens une relation vraiment profonde. Et je pense que dans notre vie chrétienne, on peut faire beaucoup de choses pour Dieu. Dieu peut nous donner beaucoup de choses également. Mais à la fin, ce qui compte, c'est qu'on puisse vraiment demeurer en lui, dans sa présence. Pas juste rester connecté à notre église, mais rester connecté à lui. J'avais une pensée en regardant une prédication, un prédicateur qui disait, qui prenait l'image de la colombe qui est descendue du ciel et qui a reposé sur Jésus et qui a demeuré en lui. Le Saint-Esprit est entré en Jésus et a demeuré en lui. Alors je ne sais pas, mais il y a très longtemps, mes parents m'ont pris à un parc d'attractions en France. Bon, j'ai oublié le nom, le Puy du Roi. Le Puy du Fou. Et il y avait là-bas des dresseurs de faucons et d'oiseaux. Ça existe toujours, oui, je n'en doute pas. Eh bien, ce qui m'avait choqué avec les dresseurs d'oiseaux, c'est que quand ils marchaient et qu'ils avaient un oiseau sur eux, ils faisaient vraiment attention par rapport à l'oiseau. Donc ils faisaient attention qu'alors qu'ils marchaient, leur mouvement n'allait pas entraver cet oiseau, n'allait pas bouger trop brusquement. Bien sûr, ils avaient ça sur l'épaule, donc ils devaient faire attention. Et puis évidemment, l'oiseau faisait allait embêter la foule, puis revenait. Un chouette spectacle. Ce message n'est pas sponsorisé par le... Non, j'ai... Eh bien, quand je remarque au Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus et qui a demeuré en lui, moi je me demande parfois si je fais toujours attention au Saint-Esprit qui est dans ma vie. Si je fais toujours attention dans mes actions sur cette colombe qui repose sur mon épaule. Et bien sûr, c'est une image du Saint-Esprit demeure en nous. Mais cette colombe qui repose sur mon épaule quand je bouge à droite, à gauche, dans mes paroles, dans mes actions. Est-ce que je fais toujours attention à ce Saint-Esprit qui est là et qui partage une relation avec nous? Dieu, le Père, attend qu'une chose, qu'on vienne lui parler, parce que le Saint-Esprit qui vit en nous, il y a un désir infini entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit d'être en communion totale. Donc Jésus, en lui donnant ce Saint-Esprit, il a vraiment créé un désir en lui et en le Père d'être tout le temps à nous parler, tout le temps à être en relation avec nous, tout le temps à passer des moments. Dieu veut vivre notre vie avec nous. C'est pas extraordinaire ça. Dieu veut qu'on lui fasse participer dans les grands choix, dans les petits choix, dans les moments tristes, dans les moments amusants. C'est vraiment ça l'essence de notre foi, de notre vie chrétienne, de notre relation avec Dieu. J'entendais des gens qui disaient, pour avoir un grand mystère, c'est facile, il suffit de savoir ce que les gens veulent et de le dire. Donc, moi, je pense que je vais prêcher à propos des Ferrari dans les années à venir, mais ça c'est pour plus tard. Peut-être tout le monde ne veut pas de Ferrari, mais on peut en parler après. Mais je pense vraiment que, au-delà de tout ce qu'on fait pour Dieu, au-delà de la taille d'une église, au-delà de la taille du ministère, si nous, nous sommes en relation avec Dieu et que nous vivons quelque chose de saint avec lui, une intimité profonde, alors nous accomplissons ce que Dieu nous demande. Parce que de là va sortir les autres choses. De là va sortir une vie sainte. De là va sortir une vie qui construit le royaume de Dieu. De là va sortir une église qui grandit. De là va sortir la multiplication des ministères. Parce que c'est juste les conséquences de notre intimité avec Dieu. Mais d'abord, avant tout, le centre de notre vie, c'est notre intimité avec Dieu. Je vois que le temps avance, donc je vais m'arrêter ici. Je voulais qu'on passe un peu de temps dans la prière et qu'on puisse être en réflexion vraiment par rapport à ces choses-là. Je sais que peut-être on s'est reconnus dans certaines... Moi, quand je regardais un peu la prédication ici, je voyais les quatre façons que j'avais écrites sur ma tablette de voir Dieu. Je me suis retrouvé à certains moments de ma vie. Parfois de considérer Dieu peut-être comme une machine à snack, de considérer peut-être que moi j'ai envie de contrôler Dieu parce que j'ai peur du monde, ou de rentrer dans un activisme chrétien. On a envie de sortir de toutes ces choses-là et de remettre Dieu au centre de nos vies. Mais je pense que ça prend une question personnelle, une remise en question. Et puis si par rapport à des jeunes que vous connaissez, vous en avez vu qui avaient quitté l'église, si un jour vous pouvez reparler avec eux, s'il y a un dialogue qui est ouvert, il faut adresser ces choses-là. Il faut adresser le fait, écoute, tu t'es peut-être senti tout à fait inadéquat quand tu vivais ta vie chrétienne. Mais Jésus, il est venu pour les gens inadéquats. Donc tu es la personne parfaite pour lui appartenir. Amen. Je demandais à notre équipe de louanges de revenir devant et nous mener dans 2-3 chants. J'aimerais bien vraiment qu'on prenne ce temps pour prier à Dieu de venir révéler dans nos cœurs s'il y a peut-être des attitudes comme ça, ou même d'autres que j'ai pas citées, qui nous empêchent de juste demeurer en lui, de passer du temps avec lui. Que nos activités ne prennent pas le dessus sur expérimenter la force de l'amour de Dieu. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ta parole qui nous éclaire, Jésus. Seigneur, tu vois que ce monde parfois nous fait peur et nous cherchons à le contrôler. Eh bien, Seigneur, on veut vraiment faire un pas de foi et dire que c'est toi qui contrôles le monde. On veut laisser ces choses-là dans tes mains. On te remercie, Jésus, parce que tu demeures en nous. Tu as un désir puissant de relation profonde avec nous. Saint-Esprit, merci parce que tu es présent, tu fais une œuvre dans le cœur, Jésus. Et vraiment souffler des nouvelles paroles, Jésus, en chacun d'entre nous, nous aider à atteindre une nouvelle dimension d'intimité dans notre relation avec toi. Seigneur, lorsqu'on se sent vide, lorsqu'on se sent drainé par la vie, merci parce qu'on peut juste tourner notre attention vers toi dans le cœur. Tu viens nous rafraîchir, tu viens nous renouveler, Jésus. Tu renouvelles nos corps, notre âme, notre esprit, nos pensées. Tu veux vraiment nous voir marcher avec toi en te tenant la main à tout moment. Seigneur, on a envie de te dire, on n'a pas envie de te lâcher. On a envie de vivre notre vie avec toi. Toujours présent dans un coin de notre tête, Jésus. Tu nous accompagnes. Tu viens libérer les captifs, Jésus. Par hasard. Merci Seigneur aussi peut-être pour tous ces jeunes dont tu fais grâce qui ont quitté l'église, Jésus. Seigneur, on te prie pour nous, que tu les ramènes à toi, Seigneur, toutes ces personnes qu'on connaît qui ont été blessées dans l'église, Jésus. Peut-être vécu des souffrances parce qu'on leur a mal enseigné, parce qu'on a présenté une vérité. On a peut-être un peu grossi, Jésus. On te demande des pardons et on veut te demander de les ramener, Seigneur. Seigneur, vraiment souffler un nouveau souffle en eux, qui les répare, qui les soigne. Seigneur, on te prie pour cette personne que j'ai citée pendant la prédication, Seigneur. Moi, je sais qu'en toi, il y a de l'espoir, Jésus. Je sais que son avenir, elle n'est pas perdu. Je voulais la ramener vers toi, Jésus. Si vous avez des chants à cœur, je vous encourage à prier pour eux. Puissent tous confirmer ça en disant Amen. Priez les uns pour les autres, pour ces gens qui ont peut-être quitté l'église, des jeunes ou des moins jeunes, et demandez à Dieu de vraiment donner une nouvelle saison, une nouvelle chose, pour les ramener dans la maison, comme le Fils prodigue. Son cœur, bien, t'es toujours présent. permet qu'il puisse lui donner, Seigneur, du courage, Seigneur, et de la force, de la confiance en lui, Jésus. Non, Jésus, je veux briser tout échec dans sa vie. Comme une nouvelle saison. Seigneur, merci parce que tu le ramènes à toi, parce que tu ne l'as pas oublié, Jésus. Parce qu'il t'appartient. Parce que tu vis toujours en lui, parce qu'il veut toujours te parler, Seigneur, la foi que tu lui parles chaque jour, Jésus. D'intimité avec Dieu, que on peut être vraiment dans un endroit où il n'y a plus de peur. Peut-être on pourrait regarder des chaises vides dans l'église et commencer à avoir une peur qui naît. Peut-être regarder les chaises vides dans nos vies, si vous permettez l'image, et avoir peur. Mais si on est dans cet endroit avec Dieu, on sait que le
Le but de notre vie, c'est d'être en relation avec lui. Mais on entretient cette relation. Et à la peur, elle disparaît. Mais il n'y a plus besoin de contrôle, il n'y a plus besoin de devoir essayer de paniquer, de mettre des choses en place. Non. C'est que on est droit devant Dieu, juste en étant en relation avec lui.
Trop d'importance. C'est Dieu qui a de l'importance et les choses, il peut nous les donner. C'est pas un problème. Les choses, il nous les donne, on a besoin, mais il les donne, c'est pas un problème. Mais c'est chaque fois que nous avons quelque chose qui devient si grand. Et nous sommes dans la chose, mais nous, en fait, c'est vrai. Nous ne devons pas être dans les choses. Même les choses que nous accomplissons pour Dieu ou les choses que nous faisons, etc., toutes ces choses-là, ce sont des choses. Des choses à faire, des choses à penser, des choses à étudier, des choses à mettre en place. C'est beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à faire. Nous sommes dans les choses. Mais finalement, pour Dieu, c'est pas grand-chose. Et la chose la plus importante, et c'est vrai, comme Jésus dit à Marie, la chose la plus importante, hein, par rapport à Marthe, qui était dans les choses, qui s'inquiétait pour, tu t'inquiètes beaucoup, hein, pour beaucoup de choses. Et la chose la plus importante, c'est Marie, hein, qui a pris la bonne part, qui se tenait dans la présence, et donc dans la relation, qui recevait de Dieu, qui se nourrissait des paroles du Seigneur, qui n'était pas seulement dans la Bible pour la Bible elle-même, mais qui était dans la relation à Jésus pour recevoir de lui. Finalement, c'était la chose la plus importante. Alors, on va encore prier pour être dans ce qui est le plus important pour nous et pas être habité par les choses de ce monde. Il y a tellement de... Ouais, et des concepts, des idées qu'on s'est fait au fur et à mesure de notre vie chrétienne, des habitudes qui se sont mises en place, parce que malheureusement, moi, personnellement, je vous le dis franchement, j'ai été dans une église à un moment donné, pendant des années, où les choses qui étaient à accomplir, c'était ça qui était important. Il fallait accomplir des choses. Et finalement, on avait des peurs par rapport à ce qui n'était pas accompli. Je pense au moine Martin, hein, Martin Luther, qui était pas satisfait. Après tout ce qu'il faisait, quoi. Il se levait le plus tôt, il jeûnait tous les jours, il travaillait plus que les autres, il jeûnait plus que les autres, il lisait plus la parole que les autres, il priait plus que les autres, mais il était insatisfait, il était pas sûr du tout. Alors, les choses de ce type-là, ça ne l'a pas entraîné vers une satisfaction par rapport à Dieu. Et un repos surtout. Et le repos, il vient quand on s'abandonne à Dieu, dans la foi. C'est ce qui a vraiment transformé ce moine en quelqu'un de chrétien, réellement chrétien. C'est quand il a découvert dans l'Épître aux Romains que le juste vivra par sa foi. Et c'est ça, la foi dans le sens de la confiance, se reposer en Dieu, se reposer dans la relation en Jésus-Christ. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés, un cadeau, la grâce. Et quand on a découvert la grâce, on quitte la loi, parce que la loi, c'est Christ qui l'a accompli, et on vit dans la grâce. Et la grâce, c'est ça que nous avons besoin de recevoir. Des fois, on a besoin de toutes sortes de balises. Et quand nous sommes dans les balises, on est dans le bon. Là, on est dans le bon, hein, je fais ce que je dois faire. Mais le plus important, c'est pas toutes ces balises-là qui ont été mises autour de nous, comme tu as dit, mais... C'est la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Plus importante que ce que nous savons que nous avons mis en place. C'est vrai que nous avons mis en place des choses, mais qu'est-ce que c'est devant Dieu, finalement? C'est Dieu que nous suivons, c'est pas les choses que nous avons mises en place. C'est ça le problème. Eh bien, nous allons prier le Seigneur. Seigneur Père, nous ne voulons pas être dans nos projets, dans les balises de nos projets, nous ne voulons pas être dans la sécurité de notre façon de vivre religieusement, voulons être dans l'abandon de toutes choses et recevoir de toi, dans la relation directe avec toi. Comme Marie qui était à tes pieds et qui se nourrissait des paroles qui sortaient de ta bouche, parce que vivant ces paroles, parce que étant rendue vivante au travers de ces paroles. Et nous voulons vivre de ta vie, vivre de tes paroles, et pas nous faire un Dieu à notre façon, ne pas fabriquer l'Église à notre manière, mais te laisser façonner ta vie en nous, et que ce soit cette vie de relation qui nous conduise. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur, et donne-nous de voir les choses comme toi tu les vois, avec la foi, avec la grâce, parce que c'est la grâce, c'est tout est cadeau. Et merci Seigneur pour la vie de grâce. Tu veux déployer cette vie de grâce. Merci Seigneur. Voulons te laisser être notre tout. Ne pas dépendre des choses. Ne pas rechercher les choses, ni à faire. Ces choses-là, il faut bien les faire, mais il y a des responsabilités, il y a plein de choses que nous devons faire, mais le plus important, c'est d'être en relation avec toi. Et nous te remercions. Merci pour cette parole qui nous remet sur les bons rails, afin que nous ne dévions pas et que nous ne devenions pas une église avec des principes seulement. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci Benjamin pour cette parole. Alors nous voulons la mettre en pratique, la vivre tous les jours. Alors cette semaine-ci, il y a beaucoup. Mais faisons-le dans la relation avec notre Dieu. Moi, ça me fait peur quand il y a beaucoup, déjà. Mais si on se confie en Dieu, ça ne nous fait pas peur. On va vivre chaque jour et chaque heure à l'aise, tranquille, comptant sur le Seigneur. Cette semaine-ci, il y a 2 jours de jeûne. C'est bien ça. Lundi, jour de jeûne, et nous allons prier. C'est bien le 6 mars ? Ah oui, ça. Je vais prier chaque lundi. Donc vous pouvez venir à n'importe quel moment. Moi je ne suis pas là parce que je suis beaucoup parti de lundi, mais toute la journée ce sera ouvert. Vous pouvez mettre les radiateurs plus fort, mais le WC surtout quand vous partez, non pas que ça chauffe pour rien. Bon, s'il y a des personnes ça va, s'il y a personne c'est dommage. Voilà, donc à partir de 6h ici, réunion de conseil ce lundi, donc demain à 19h pour le conseil, c'est important, hein, lundi et Loulou, c'est Chantal, et bien sûr, Sandrine, si tu as le temps, ça dépend de toi. Réunion de prière, mardi, à 19h jusqu'à 20h30, c'est important. Nous allons prier tous les jours pour Géraldo. Pensons à Géraldo, nous allons prier pour lui, j'aimerais bien qu'il y ait une chaîne de prière. Il faudra alors une liste où on met les heures où on prie. Mais déjà, nous avons le lundi et le samedi de jeûne et prière, mais tous les jours, passons du temps, prenons une heure de temps dans la prière pour l'Église et pour Géraldo. Hein, pensons nos frères et sœurs, chaque personne de l'Église. Alors, mercredi, nous avons une soirée de louanges avec Dan Leuten à Charleroi. C'est 13 euros par adulte et 8 euros par enfant. Alors, si vous voulez encore y aller, pas trop vite. Donc, il me reste pas. Est-ce que tu veux des places, Jean-Philippe? Ça, on peut se voir après. Ok. Donc, le vendredi, jeudi soir, c'est plus calme, mais prions. Continuons à prier tous les jours. Soyons dans la prière. Moi, tous les jours à 6h du matin, je suis ici. Ceux qui veulent peuvent venir. Ce sera ouvert entre 6 et 7 de toute manière. Vendredi 11 mars. À 19h, nous avons la cellule des jeunes, plus la cellule des parents et autres adultes. Donc, ce sera la cellule des jeunes ici à la cuisine de l'église et la cellule des adultes dans notre salon. Le but, c'est toujours le partage biblique, les témoignages, les prières, les communions fraternelles. Venez avec vos témoignages et il y aura un partage, bien sûr, des personnes qui sont désignées pour cela. L'assemblée générale de notre ASBL, dimanche, il y a quelque chose de très important samedi. C'est le jeûne et prière, on oublie de le mettre, mais jeûne et prière de 8h30 à 13h, ici même, samedi, 8h30 à 16h le 12 mars. Très important de bloquer le samedi. Alors, le dimanche, nous avons notre culte à 10h, 9h30 la prière. On va revenir au principe de la prière à 9h30 le dimanche, je crois que c'est fort important. L'assemblée générale est à donc 13h. Si on peut l'avancer un tout petit peu, on le fera. Ça dépend si on est prêt ou pas. Voilà, donc dimanche prochain, l'ASBL. Alors soyez tous là, qu'il n'y ait personne d'absent. Tout le monde est le bienvenu, même ceux qui ne sont pas membres. Les chrétiens en fête, le 9 avril, donc c'est vraiment très important. Donc, je vais demander à une personne de prier pour le 9 avril. À chaque réunion, nous allons prier pour le 9 avril, c'est important. Il va y avoir plus ou moins 2000 personnes, ça se fait pas. On fait pas un événement comme ça sans prier. C'est important. Alors, il y a des besoins, tu peux mettre la dia suivante. Et ainsi de, oui, voilà. Besoin d'aide. Chrétien en fête, vendredi 8 avril, à Saint-Servais, donc, à l'église de la Colombe, du pasteur Ernest Congolo, donc, chaussée de Waterloo 63, il y aura une réunion de prière et une distribution de flyers le soir. Du vendredi. Donc, il n'y aura pas de réunion ici, que ça permet à tout le monde de pouvoir aller là-bas. On veut être un soutien pour ce travail. Le 9 avril, il y aura, bien sûr, un besoin de moniteurs et monitrices pour l'encadrement des enfants. Donc, on souhaite vraiment adresser cet appel aux jeunes qui veulent se responsabiliser, qui veulent prendre une part au travail des moniteurs et aide pour l'encadrement. Donc, il y a trois périodes de 2 heures. De 10h à midi, ça c'est déjà le Claude Hout nous apportera dans la grande salle un enseignement, et les enfants seront repris dans deux classes, dans deux salles, donc pendant ces 2 heures-là. Puis alors il y aura le temps de midi à 14h. Là, les gens sont libres et les parents s'occupent de leurs enfants. Et puis, il y a, donc les enfants, c'est entre 5 et 11 ans. Hein, c'est ça qu'il faut savoir. 5 et 11 ans. Donc la garderie ne se fera pas pour les enfants entre 5 ans. Ça, il faut savoir aussi. Et puis alors, il y a les villages thématiques. 5 villages thématiques. Et donc, dans ces villages thématiques, on laisse 2 heures, de 14 heures à 16 heures. Et là, on peut aller voir les instituts théologiques, on peut aller voir tout ce qui se passe au niveau média, dans le paysage protestant évangélique en Belgique, et etc., etc. Il y a les enfants, tout ce qui se fait au niveau de la jeunesse, etc. Donc, Jesus Revolution sera présent, et aussi Porte Ouverte qui sera présent dans le village, comment? C'est dans quel village déjà? L'église, je sais plus trop, parce que il y a l'église persécutée, mais c'est qu'une partie de ce village-là. Mais enfin, soit, c'est pas grave. Je n'ai pas la carte devant les yeux pour le dire. Alors, on aura besoin de personnes pour installer les chaises avant la réunion du 9, évidemment. Donc ça veut dire que ce sera peut-être à 4h du matin pour mettre les chaises. Ouais, je ne sais pas. L'heure exacte pour mettre les chaises, je ne la connais pas. Ce sera peut-être à 6h du matin. Mais donc je vous dirai quoi pour l'installation des chaises. Le rangement des chaises, ça c'est clair, c'est après 18h, puisque ça se termine à 18h. 18h, 18h30, on range toutes les chaises. Et bien sûr, tout le matériel de la communauté française. Hein, bien sûr. Il y aura le matériel à ranger dans le camion. Donc, il y a une feuille qui se trouve sur la table du fond, pour indiquer les personnes, vous indiquer quand, si vous, par exemple, vous pouvez venir 2 heures pour être monitrice, donc encadrer les enfants, voilà, je peux faire ça pendant la journée. Peut-être que vous ne pourrez pas vous-même dire c'est le matin ou l'après-midi, ou alors vous, vraiment, vous ne pouvez venir que le matin ou que l'après-midi, là, vous indiquez alors que c'est le matin ou l'après-midi qui que ça vous arrangerait. Voilà, si c'est le rangement, mais c'est très important. Voilà, alors nous arrivons aux fruits, donc indiquer, hein, j'aimerais bien aujourd'hui que, si c'est possible, que chacun puisse indiquer sa participation pour le 8 et pour le 9, et ce en quoi vous voulez vous engager. C'est fort important de le faire aujourd'hui. Alors, les fruits de la passion, c'est un camp qui se passe à Mulhouse, en Alsace. Ceux qui sont intéressés, qui demandent à Damien, qui n'est plus là, il est peut-être juste à côté, donc son frère s'occupe de tous ceux qui partent de Liège pour aller à Mulhouse, hein, ils sont habitués de le faire. Donc voilà, dernière ligne droite pour s'inscrire auprès de Pascal ou Damien, prix de 95 euros plus le voyage qui est de 20, non, dont le voyage 25 euros qui est compris dans les 95 là, plus les repas à prendre sur place. Voilà ce que ça coûte. Voilà, si tu peux mettre dans le Summer Team 2016 à Madrid, inscrivez-vous auprès de Benjamin aujourd'hui, il est là. Alors inscrivez-vous si vous ne vous êtes pas encore inscrit. On va vous inscrire, payer les camps, l'église va payer tous les camps de toute manière, réserver les billets d'avion. Donc ça va se faire assez rapidement, hein. Laisser du temps pour que chacun puisse se décider. Et maintenant on va le faire. La compte est de 200 euros à payer sur le compte de l'église. Voilà, donc l'église va se charger de payer tout. Bon, il y aura les collectes missionnaires de janvier et février vont servir à cela. Il y aura le repas qui se fera au mois de mai, c'est pas ça? Mai ou juin? Il faut encore qu'on décide et qu'on parle du jour et de l'heure du repas qui va être fait pour les jeunes. Parce qu'il y a aussi le baptême de... de Francesco, et donc là ce sera au mois de mai, donc on doit encore faire décider quelque chose, et il y aura encore une offrande missionnaire qui sera encore adaptée pour les jeunes du Summer Team, parce qu'on croit que c'est non seulement un camp, hein, c'est un camp entre ces jeunes-là, ils reçoivent une formation de 5 jours, et puis ils vont directement en ville, et ça dure combien de jours au centre-ville?
9 jours
d'évangélisation non-stop, et ça c'est extraordinaire, avec des guérisons, des choses extraordinaires qui se produisent, des gens qui sont sauvés, amenés dans le corps de Christ. Donc, vraiment, il faut prier pour ça. Ce sont des missionnaires, en fait. Hein. On envoie des missionnaires pour une courte durée, bien sûr, mais c'est quand même des missionnaires. Et c'est pourquoi on veut vraiment les soutenir. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout. Hein. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que ces informations-là sont importantes, et je vais demander à Ladi de bien vouloir terminer, de revenir ici pour terminer par la prière.
Seigneur, merci. Merci Seigneur encore pour l'opportunité, Seigneur, que tu as donnée à chacun de nous, Seigneur, afin de venir, Seigneur, écouter ta parole, Seigneur. Seigneur, ta parole était sainte, Seigneur. Ta parole est vivante, Seigneur. Alors, Seigneur, nous voulons que cette parole, Seigneur, puisse donner des bons fruits, Seigneur, en nous, Seigneur. Seigneur, que cette parole puisse être aussi, Seigneur, Seigneur, répandu, Seigneur, sur toute la terre habitée, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir, Seigneur, les répandre, Seigneur, à nos proches, Seigneur, afin que cette parole puisse demeurer, Seigneur. Seigneur, je te loue et je te bénis, Seigneur. Je te confie encore, Seigneur, cet après-midi, Seigneur, et des jours à venir, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Pourvois, Seigneur, à toutes choses, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, aussi, Seigneur, à être des éléments, Seigneur, que toi tu auras choisi pour être des bénédictions pour les autres, Seigneur. Seigneur, béni sois-tu, Père. Dans les noms puissant Seigneur Jésus, je te prie. Amen.
Amen. Merci, David. Le Seigneur vous bénisse et garde la soupe.